France Musique. Musicopolis.
Février 1941, Philadelphie. C'est Eugène Normandy qui dirige l'orchestre de Philadelphie pour le concert du 7 février 1941. Le programme comprend des œuvres connues, l'ouverture pour une fête académique de Brahms, le deuxième concerto pour violon de Mozart, la mer de Debussy, la danse des sept voiles de Salomé de Richard Strauss et aussi la création d'un concerto pour violon de Samuel Barber, seul compositeur américain de la soirée. Barber a rédigé un programme pour informer le public que le concerto a été terminé en juillet 1940 à Pocono Lake, Pennsylvanie, et que c'est son œuvre la plus récente pour orchestre. Le concerto est lyrique, écrit-il, et plutôt intime de caractère, avec un orchestre de moyenne dimension. Le premier mouvement commence avec un premier thème lyrique, annoncé immédiatement par le violon solo, sans aucune introduction orchestrale. Le Philadelphia Inquirer du 8 février 1941 célèbre Albert Spaulding, le soliste du concerto de Barber la veille au soir. Le journal rapporte un succès populaire exceptionnel avec un tonnerre d'applaudissements à l'endroit du soliste et du compositeur. Spaulding a joué son Guarnerius de 1755 de manière fort brillante. Et il a rendu justice à ce concerto, libre de traits arbitraires et de maniérismes musicaux, et dont la simplicité et la sincérité sont parmi les qualités les plus engageantes. Il y a bien quelques voix discordantes aussi parmi les critiques. Le critique du Philadelphia Evening Bulletin, qui considère Barber comme l'un des plus capables de ce qu'on pourrait appeler l'aile droite des compositeurs américains, regrette la texture de l'orchestration, qui ne contraste pas suffisamment pour son goût avec la partie de violon. Il juge l'esthétique de Barber très 19e siècle, dans laquelle l'instrument solo est une partie intégrante du tout. Après avoir lu les critiques du concerto pour violon de Barber, son oncle, le compositeur Sidney Homer, lui écrit : J'aime la remarque du télégramme qui relève le sens du drame dans le plan d'ensemble. Voilà ce que je ressens dans toute ta musique, le sens du drame. Pour moi, toutes ces critiques différentes sont le signe de ton importance. Plus ils analysent et ergotent et étiquettent et essayent de définir, plus je vois reconnaissance, mystère et confusion. Ils seront toujours dans le doute parce que tu écris cette sorte de musique. Les notes de programme, écrites par Samuel Barber pour la première de son concerto, indiquent qu'il l'a achevé en juillet 1940. Pourtant, dès décembre 1939, il en avait terminé une première version. Revenons en arrière pour comprendre la genèse mouvementée de cette œuvre. En novembre 1938, Samuel Barber s'est retrouvé du jour au lendemain le célèbre compositeur de l'Adagio pour cordes. Dirigé pour sa création par Arturo Toscanini avec son orchestre de la NBC, la pièce est retransmise en direct à la radio. Immédiatement, tous les chefs la veulent et elle devient bientôt the tube des orchestres symphoniques. Succès augmenté par les polémiques sur le caractère non moderne de l'œuvre. C'est justement ce caractère hors d'âge qui fait son succès, même si pour certains critiques, c'est là un défaut rédhibitoire. Quelques mois plus tard, les amis du jeune violoniste Iso Briselli, camarade de Barber au Curtis Institute, cherchant comment booster sa carrière, lance l'idée de passer pour lui la commande d'un concerto à un jeune compositeur américain. C'est l'auteur de l'Adagio pour cordes qui est choisi, Samuel Barber. Iso Briselli, né à Odessa en 1912, a quitté la Russie avec sa famille au moment de la Révolution. Passé par l'Allemagne, il arrive aux États-Unis en 1924 grâce à son professeur de violon Carl Flesch, qui vient d'être nommé au Curtis Institute, toute nouvelle école d'excellence créée à Philadelphie. Alors qu'il est seul sans sa famille, le garçon est recueilli par un industriel de Philadelphie, Samuel Fels, extrêmement mélomane. Briselli est un jeune prodige et bientôt il se produit en soliste lors de concerts où l'on remarque ses grandes capacités techniques et sa magnifique musicalité. En 1933, il obtient son diplôme du Curtis, la même année que Samuel Barber. Et au printemps 1939, donc, son mécène Samuel Fels va commander à son intention un concerto à Barber. l'histoire du concerto pour violon de Barber a fait l'objet de plusieurs récits, dont un en 1954 du premier biographe du compositeur, Nathan Broder, qui se trouvait travailler également pour l'éditeur de Barber, la maison Schirmer. Dans le but de donner le plus d'éclat possible à la jeunesse du concerto, Broder s'est laissé aller à quelques inexactitudes, ou plutôt, allez, disons-le, quelques mensonges. Mensonges que l'on trouve encore répétés, de bonne foi sans doute, dans les livres et les pochettes de disques, alors même que les preuves du contraire ont été publiées depuis. Je tâcherai donc de m'en tenir aux faits avérés. En mai 1939, donc, lettre de Samuel Barber à Samuel Fels, dans laquelle il dit sa joie d'écrire une pièce pour violon et orchestre d'une durée d'environ 15 minutes. Iso Briselli en aura l'exclusivité pendant un an. Barber touchera 1000 dollars, 500 à la commande, 500 à la réception. Il devra livrer l'ensemble de la partition pour le 1er octobre. Fels est d'accord avec tous les points, préfère tout de même que l'œuvre soit un peu plus longue qu'un peu plus courte, et il souhaite que le compositeur collabore avec le violoniste pendant la composition. L'œuvre doit être créée en janvier suivant, 1940, avec l'orchestre de Philadelphie. Sur ce, Barber, avec son compagnon Giancarlo Menotti, part pour l'Europe, où il passe régulièrement ses étés depuis plusieurs années. Et il se met avec ardeur à son concerto en arrivant en Suisse, entre Sils Maria et Lucerne. À Lucerne, cet été 1939, se tient la deuxième édition d'un festival qui accueille tous ceux qui, pour des raisons de politique raciale, ne peuvent plus ou ne veulent plus aller à Bayreuth ou à Salzbourg. On y croise du beau monde. Barber avance sur son concerto et vers la fin août, il a à peu près terminé les deux premiers mouvements. Il compte passer le mois de septembre à Paris et y écrire le troisième mouvement pour être fin prêt à livrer l'ensemble début octobre comme prévu. C'est là qu'il est rejoint par l'histoire, avec un grand H. Le 1er septembre, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne attaque la Pologne. En France, c'est la mobilisation générale. Voilà qui n'est pas le meilleur endroit pour composer en paix. D'ailleurs, on conseille aux ressortissants états-uniens de quitter la France le plus vite possible. Barber et Menotti filent vers le Havre, où au bout de plusieurs jours d'angoisse, ils finissent par embarquer sur un paquebot archibondé. Barber arrive à New York dans un état de nerfs terrible et très en retard sur le concerto. Rentré aux États-Unis en septembre 1939, Barber prend encore du retard sur son concerto en raison de l'état de santé de son père, victime d'une hémorragie cérébrale. La date de remise approche, il livre seulement deux mouvements à la mi-octobre. Briselli est enchanté et il attend avec impatience le final, qu'il voudrait assez virtuose. Mais son professeur et coach, Albert Mayf, habitué des concertos romantiques, trouve que le début n'est pas assez gratifiant violonistiquement parlant. Il se propose, comme Joachim l'a fait avec Brahms, d'aider Barber à améliorer sa partition, ce que Barber refuse. Mayf en réfère à Fels, le commanditaire du concerto, et le prévient que jouer une œuvre comme celle-ci pourrait nuire gravement à la carrière de son protégé. Pendant ce temps, Barber termine la composition du final. Il le donne fin novembre 1939 à Briselli. C'est un court mouvement perpétuel, presto, d'un peu plus de 3 minutes. Thank you. Lorsqu'il reçoit le final de son concerto, Iso Briselli est déçu. Il s'attendait à un mouvement plus long, plus consistant musicalement, et il demande à Barber de l'étoffer. Ce que Barber refuse, il est artistiquement satisfait de ce qu'il a écrit. Il fait même jouer le mouvement à un de ses amis devant quelques autres musiciens pour se rendre compte si l'œuvre est viable. Elle l'est, juge-t-on. Après discussion entre Briselli, Fels et Barber, un commun accord est trouvé. Briselli se désengage, Barber conservera son avance de $500 et Fels sera quitte des autres 500. En 1954, Nathan Broder, dans la biographie qu'il consacre à Barber, affirme que Briselli a refusé le concerto parce qu'il n'était pas capable de le jouer. Ça ne tient pas la route si l'on considère son répertoire et sa carrière. C'est aussi contraire à ce qui est dit dans les correspondances échangées entre les protagonistes de l'affaire. Mais la désinformation a la vie dure et on en trouve encore des traces aujourd'hui. Bref, Briselli n'a jamais joué le concerto en public, mais il l'a souvent interprété en privé avec plaisir. Et l'œuvre est aujourd'hui l'un des plus aimés de tous les concertos américains. Camilla Wicks au violon avec l'orchestre de la radio suédoise dirigé par Sexten Erling. Dans le final du concerto pour violon de Samuel Barber, nous avons entendu aussi des extraits de la version Isaac Stern et de la version Hilary Hahn. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Claire Lagarde pour la réalisation et Stéphane Desmond pour le mixage.
À réécouter sur francemusique.fr.